What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça. Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique qui traite de profilage racial. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une psychologue, Stéphane Alix. Merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invitée, Lina.
Merci. Puis en fait, vous avez un doctorat de psychologie de l'Université Laval et vous faites surtout de la psychologie communautaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et de votre parcours?
OK. J'ai fait mes études de premier cycle, ce qu'on appelle une licence là-bas en psychologie. Là-bas, c'est en Haïti, vous l'aurez compris. Donc, ma licence, je l'ai fait en Haïti et après, je suis arrivée ici à l'Université Laval à Québec pour faire mon doctorat en psychologie communautaire. Donc, la psychologie communautaire, c'est un domaine où on s'intéresse à l'individu en lien avec son environnement. Donc, on se questionne sur... Ce qu'il y a, c'est qu'on a constaté que les problèmes de santé mentale, la manière dont c'est réparti au sein de la société, c'est lié à la répartition des ressources. Un problème comme la dépression, par exemple, se retrouve d'un point de vue statistique, ça se retrouve de manière beaucoup plus importante dans un contexte où il y a moins de ressources. Donc, en psychologie communautaire, on se questionne sur comment l'environnement contribue à soutenir la santé ou la maladie mentale de l'individu et comment on peut accompagner, quel change... Ça veut dire, on se questionne sur l'adéquation entre l'individu et son milieu, mais pas uniquement dans une perspective de changer l'individu. Aussi dans une perspective de qu'est-ce qui, on se pose surtout des questions sur qu'est-ce qui doit être changé dans l'environnement pour mieux répondre aux besoins des individus. C'est comme ça que je pourrais les résumer rapidement ce qu'est la psychologie communautaire.
Mais c'est super intéressant, puis c'est pour ça justement que je trouve que vous êtes l'invité idéal pour ce genre de discussion, parce que justement, on va parler un peu de l'influence qu'a le racisme, le profilage racial et tout ce genre d'expériences peuvent avoir sur la santé mentale des personnes racisées. Mm-hmm. Donc justement, comment est-ce que l'environnement de la personne va affecter sa santé? Donc pour... Mm-hmm. Introduire un peu le sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi la psychologie qui se trouve un peu derrière le racisme?
Ok. Ça, justement, c'était une des questions de... Si tu permets, j'ai envie de la reformuler avant d'y répondre. Tu me diras si la réponse que je te propose répond à ta question ou s'il me faut aller plus loin. Quand j'entends une question comme ça, je nous sens glisser vers des explications individualisantes, psychologisantes du racisme. Qu'est-ce qui pousse un individu à être raciste? Et j'ai pas le feeling que c'est la question la plus urgente à se poser si on veut réfléchir dans une perspective de changement social. Dans la mesure où oui, les individus ont un rôle important à jouer dans comment les systèmes fonctionnent, mais le problème est lié au fait que il y a certaines structures, il y a certains mécanismes, il y a des processus dans comment la société est organisée qui vont exclure certaines personnes. Et je pense que si on veut penser au changement, c'est principalement à ça qu'il faut s'attaquer. Parce qu'à la limite, une personne peut ne rien faire et contribuer à soutenir un système raciste. Tu vois Absolument. Ce que je veux dire?
Absolument.
Est-ce que ma réponse est claire?
Oui, c'est parfait. Justement, c'est ça, c'est que c'est tellement un processus social de base que c'est un peu difficile après, comme vous avez dit, de voir le côté très, très individualisant, psychologique. Donc, oui, absolument. Et puis, justement, dans cette même lignée-là, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des effets possibles, justement, du profilage racial et du racisme de manière générale sur la santé mentale des personnes racisées? Quels pourraient être les effets possibles de ce type de discrimination?
Avant de répondre à cette question, j'ai envie de faire un petit ajout à la question qu'on a vue tout à l'heure. Donc peut-être aller un petit peu plus loin dans la définition du racisme avant. Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est parfait.
Qu'est-ce qu'on disait? Donc donc le racisme, c'est une idéologie qui est très liée à l'histoire coloniale. Ça a été un instrument de la colonisation. Donc, c'est une idéologie qui définit les groupes humains de manière très essentialiste en se basant sur des caractéristiques. On sait aujourd'hui, il y a aucune base biologique à la notion de race. C'est pas quelque chose qu'on est en mesure d'établir. C'est pas quelque chose qu'on est en mesure d'établir scientifiquement. Comme l'appartenance à une race, mais il reste que la race demeure comme construction sociale qui continue à avoir du poids sur, comme qu'on voit une personne et qu'on l'attribue, qu'on assigne à cette personne une étiquette, qu'on l'assigne à une race ou à une autre, va avoir une influence sur comment cette personne est traitée. Donc, le racisme, je disais, c'est donc une idéologie qui hiérarchise les groupes humains et qui considère que certains groupes sont supérieurs à d'autres. Donc, c'est une idéologie qui a été inventée pour des buts de domination économique. Et c'est ça. Que j'ai tout dit.
Pour les effets un peu que ça aurait sur les jeunes, même sur les personnes plus, sur tout groupe d'âge, là, j'ai l'impression, quels effets possibles ça pourrait avoir sur la santé mentale des personnes justement racisées qui vivent ça?
Les effets sur la santé mentale. Les effets, si on veut penser aux effets sur la santé mentale, on peut tout de suite penser aux effets le racisme va prendre forme dans de la discrimination au logement, discrimination à l'emploi et tout ça. Et c'est sûr que si on n'est pas j'ai parlé au début de comment l'environnement dans lequel on évolue et les ressources auxquelles on peut avoir accès peuvent avoir une influence sur notre santé mentale. C'est sûr que si je suis stressée parce que si j'ai peur de ne pas trouver un travail, si je perds mon travail, si je sais que dans mon emploi, je suis la personne le plus à risque d'être mise à pied, s'il y a une restructuration dans mon entreprise, si je suis pas en mesure d'habiter dans un appartement, si on veut pas me louer les appartements, bel appartement chaud, bien situé, si les quartiers où je me trouve sont moins bien desservis, si le quartier où je finis par aller habiter est moins bien desservi par le transport en commun, tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir des effets sur ma qualité de vie et par là, sur ma santé mentale. On s'entend que là, on est en train de parler de santé mentale dans un sens très large, au-delà de l'absence de... Quand on parle de santé mentale, on ne parle pas uniquement d'absence de maladie mentale, on parle de tout ce qui contribue à ce que j'aille à mon meilleur, tout ce qui peut contribuer à mon bien-être, pas juste me laisser à un niveau juste de survie, mais en anglais, on dit « thriving ». Je ne sais jamais comment... Je ne suis jamais sûre comment le traduire, mais c'est autour de l'idée d'être à son plein potentiel. Si c'est ça le... Si on parle, dès qu'on parle de cette définition-là de la santé mentale, c'est très clair que le racisme a des effets sur la santé mentale à plusieurs égards. Un effet, ça peut être de comme me sentir bien. Comme être humain, on a besoin d'appartenir, on a besoin de liens. Me sentir bien, c'est sentir que j'appartiens à un groupe. Et quand je vis du racisme sous une forme ou sous une autre, c'est sûr que le sentiment que j'appartiens au groupe, le sentiment que j'appartiens à la société est remis en question. Un autre effet que ça peut faire, c'est comme être bien dans sa peau, être en santé mentale, c'est avoir le sens qu'on a de la valeur et s'aimer. Et des fois, si on est socialisé, si on est tout le temps exposé à des images négatives de nous-mêmes, ça je parle spécifiquement pour les jeunes, si on est tout le temps exposé à des images négatives de nous-mêmes, ça peut être plus difficile pour nous de construire une image de nous-mêmes où on peut s'aimer. Donc, on peut finir par internaliser ces points de vue négatifs sur soi. Donc ça, c'est un autre exemple d'effet que le racisme peut avoir. Quand on parle de racisme aussi, quand on parle de racisme dans nos sociétés contemporaines, il ne faut pas oublier que ça peut prendre des formes extrêmement subtiles et presque voyées. Et par conséquent, tu peux te retrouver dans une situation où tu en arrives à douter de ton propre jugement. C'est pas clair, c'est juste comme ça peut pas comme c'est pas clair si l'incident que tu es en train de vivre en ce moment, si c'est spécifiquement lié à au fait que tu es vu comme appartenant à tel ou tel autre groupe ou si c'est lié à autre chose. Donc tu es tout le temps en train de douter de ton propre jugement.
Est-ce qu'on m'a parlé comme ça toi... parce que je suis une femme voilée? Est-ce qu'on m'a regardé comme ça parce que je suis une femme voilée? C'est un peu...
C'est ça. Ou est-ce que c'est pour autre chose? Et c'est jamais clair. Donc, être tout le temps en remise en question de soi-même, douter de son propre jugement, ça fait partie des effets que le racisme peut avoir. Se blâmer soi-même aussi. J'aurais dû m'habiller autrement. Le policier ne m'aurait pas interpellé. Oui. Oh non, il y a une autre chose dont je dois parler. Si on parle des effets du racisme. Il y a un chercheur qui a mis en évidence un concept qu'il a appelé... la menace du stéréotype. Ce qu'il essayait de montrer à travers ça, c'est comment, quand une personne est exposée à l'idée... quand une personne est exposée à l'idée qu'il n'est pas compétent dans un domaine. Par exemple, au-delà de est-ce que cette personne-là va adhérer à cette croyance-là ou pas, au-delà de est-ce qu'il y adhère ou pas, le fait d'être exposé à ce stéréotype va de fait nuire à ses compétences. Je vais essayer d'expliquer ça avec un exemple très concret. Une jeune femme noire arrive dans un... Mettons qu'une jeune femme noire arrive dans une salle où elle doit faire un examen de mathématiques. C'est super cliché l'exemple que je vais donner. Puis quelqu'un lui dit, avant son examen, des recherches ont prouvé que les femmes ou bien que les personnes noires ont moins de compétences en mathématiques. Elle peut y croire, elle peut ne pas y croire. Mais dans tous les cas, ce qu'on a constaté, c'est que le fait d'être exposé à ces idées-là peut avoir une influence réelle sur ses résultats. Comme si le morceau de sa tête, comme si la charge mentale, c'est pas le morceau de sa tête, la charge mentale que ça a pour lutter contre cette croyance-là ou pour se mobiliser pour prouver le contraire, c'est une chose qui n'est pas mise à profit dans l'exécution du problème que cette personne-là doit résoudre. Et donc ça fait partie des prophéties qui s'auto-réalisent.
Absolument. Puis tout à l'heure, justement, vous parliez un peu d'appartenance, de sentiment d'appartenance, mais justement, ce genre d'expérience et ce genre de discrimination, ça peut influencer le sentiment d'appartenance à la société. Puis j'aimerais savoir, vous, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez dans ces contextes-là? Est-ce que ça peut mener même au phénomène d'acculturation, le fait vraiment d'avoir vécu des interactions négatives liées à notre appartenance ethnique, raciale?
Avant d'aller plus loin, je veux être sûre qu'on parle de la même chose quand on parle d'acculturation. J'ai vu que tu avais une question en lien avec ma thèse, donc j'imagine que tu as vu passer ma thèse.
Oui, oui.
Donc, parce que j'utilise ce terme, mais dans un sens différent. Il y a tout un champ de recherche en psychologie, dans la recherche interculturelle en général, qui utilise ce terme, mais peut-être d'une manière différente de comment c'est utilisé dans le langage courant. Donc, je veux juste clarifier quelque chose. On parle d'acculturation, le courant de recherche auquel je m'identifie, on parle d'acculturation pour parler d'un contexte où évoluent des porteurs de plusieurs cultures différentes. Donc, un contexte de contact de culture. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'acculturation. Et on va parler maintenant de différentes stratégies d'acculturation selon la position, la posture que la personne adopte en lien avec la culture de son pays d'origine, puisqu'on parle ici de personnes immigrantes, à supposer qu'on parle de personnes immigrantes, parce qu'on pourrait penser à des phénomènes du même genre pour des groupes minoritaires versus des groupes majoritaires, mais sans qu'il y ait spécifiquement un enjeu d'immigration. Là, je parle d'immigration parce que je m'ai donné thèse en tête. Et donc, on peut avoir des attitudes, on peut imaginer deux axes différents, parce que, en tout cas, on peut imaginer deux axes différents, l'axe de la culture d'origine et l'axe de la culture du pays de résidence, du nouveau pays de résidence, et se questionner sur les stratégies d'acculturation en regardant la posture de la personne à la fois par rapport à sa culture d'origine et par rapport à la culture du nouveau pays de résidence dans laquelle cette personne-là évolue. Donc, on peut avoir plusieurs configurations dans un contexte comme ça. Si la personne parle de, si la personne choisit de maintenir sa culture d'origine et de et d'adopter certains aspects de la culture, tout en adoptant des aspects de la culture du pays de résidence. On va parler d'intégration. Si la personne choisit de rejeter sa culture d'origine, et d'adopter la culture du pays de résidence, on va parler d'assimilation. Si la personne choisit de... Attends, c'est un peu loin. J'avais refait mon petit schéma pour me rappeler. Si la personne choisit d'adopter la culture de son pays, adopter sa culture d'origine et rejeter la culture du pays de résidence, on va parler de séparation. Et si la personne décide de rejeter et la culture d'origine et la culture du pays d'accueil, on va parler de marginalisation. Je ne sais pas si quand tu as posé la question avec l'acculturation, si c'est à l'assimilation que tu pensais.
Oui, ben en fait, je pense qu'il y aurait plusieurs angles à prendre avec ce sujet-là, mais je pense que si vous voulez développer sur l'assimilation, ça serait très intéressant, si vous voulez développer là-dessus.
Fait que du coup, la question c'était, d'être exposé à des images négatives de sa culture d'origine peut amener à l'assimilation? C'était ça la question.
Oui, et puis surtout sur le sentiment, et également sur le sentiment d'appartenance à la société québécoise, comment est-ce que ça peut l'affecter quand on appartient à différents groupes, par exemple?
Ok. Mais si je réfère à ces différentes stratégies d'acculturation que je viens de définir, donc posture par rapport à sa culture d'origine et à la culture du pays de résidence, ce qu'on peut garder en tête, c'est qu'il y a ce que la personne souhaite, mais il y a aussi ce à quoi la personne a accès. Pour certaines personnes, le fait justement d'être rejeté de la culture, de la société, le fait de vivre du rejet, le fait de vivre de la discrimination peut amener à revenir à sa culture d'origine et à s'identifier principalement à ça. Ça peut être un des effets. Tout comme dans certains cas, ça peut aussi avoir l'effet de vouloir complètement rejeter sa culture d'origine complètement adopter la culture du pays de résidence. Ça dépend de beaucoup de choses qui peut amener les personnes à faire un choix ou l'autre, mais c'est sûr que dans un contexte où tu vis de la discrimination, la possibilité de jouer comme ça avec toutes tes appartenances et d'être créatif est limitée. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si on pense aux effets du racisme sur des personnes racisées, sur des personnes avec une trajectoire d'immigration, des personnes immigrantes, des enfants d'immigrants, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est comment ces processus-là, discrimination, racisme, alourdit la possibilité d'être libre dans l'exploration des identités possibles. Je pense que c'est par rapport au choix d'acculturation, tu vois, je suis obligée de mettre des guillemets à chaque fois que je dis choix parce que C'est ça. Si de toute façon, tu te fais dire que à cause de tel aspect de ton apparence, on te ramène à tel aspect de ta culture, c'est parce que on a besoin d'une cohérence aussi, hein, en matière d'identité. Mm-hmm. On cherche une certaine cohérence en comment on se voit et comment les autres nous voient. Donc, si ça peut être plus reposant de juste, pour certaines personnes, ça peut être juste plus mm-hmm. reposant de juste se rattacher à sa culture d'origine. Mm-hmm. Si on se fait tout le temps ramener à ça, de toute façon.
Mm-hmm. Si on ne se sent pas inclus.
Absolument.
Puis
pour d'autres, ça va être de la surenchère. Mm-hmm. Puis pour d'autres, ça va être de la surenchère. En faire plus, toujours mm-hmm. plus, pour finalement être... Dans les deux cas, ça peut être coûteux. Ça peut être coûteux psychologiquement. C'est des choses qui peuvent nuire au bien-être.
Puis justement, je trouve que c'est intéressant aussi de se pencher sur la question de la perception du racisme ou des discriminations des différents groupes d'âge. Donc, en revenant un peu à votre thèse qui a ciblé 12 jeunes Haïtiens et 12 parents haïtiens, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les effets du racisme, la perception des personnes de la communauté haïtienne au Québec? Est-ce que ça varie selon les groupes d'âge ou est-ce que c'est quand même un phénomène qui est similaire, peu importe si on est plus jeune ou plus âgé?
Mm-hmm. Je suis bien contente que tu aies précisé que j'ai rencontré 12 parents et 12 adolescents, parce que justement, j'ai fait une recherche qualitative, donc ça fait un effectif trop petit pour que je fasse des généralisations
mm-hmm,
à partir de ces données-là sur ce qui se passe dans les groupes d'âge. Ce que je peux dire toutefois, c'est que toute la question de comment on est perçu est très prégnante et dans le discours des parents et dans le discours des adolescents. Donc, pour parler de soi, plusieurs des adolescents ressentaient l'urgence de se positionner par rapport à ce qui est dit sur les jeunes haïtiens dans les médias. Puis beaucoup de parents exprimaient l'inquiétude que leurs jeunes subissent les effets de cette perception-là d'une manière ou d'une autre. Les parents avaient toutes sortes d'inquiétudes que les enfants finissent par s'identifier à ces images négatives, inquiétudes que ces images négatives aient des effets réels, concrets sur leurs enfants, peur que leurs enfants ne soient interpellés par la police. Par rapport à ça, justement, si on veut parler de groupe d'âge et de posture des parents et des adolescents, c'est un peu loin, hein, mais ça fait un petit bout de ma thèse quand même, c'est un peu loin les données, mais moi, j'avais rencontré, les parents que j'avais rencontrés, c'est des personnes qui étaient nées en Haïti et qui avaient immigré au Québec à l'âge adulte. Et les adolescents que j'avais rencontrés, c'était les enfants de ces mêmes parents qui étaient nés ici au Québec. Et une remarque que je pourrais faire en lien avec l'âge, c'est que toutes les fois où les parents m'ont parlé d'expériences de racisme auxquelles leurs enfants ont été exposés, toutes systématiquement ont souligné comment « Mais l'enfant n'avait que tel âge quand telle chose s'est passée. Mmh. » Comme si... Donc, il soulignait cet aspect-là. C'est certainement pas comme une maman, un papa qui choisit de faire un enfant, d'élever un enfant dans un milieu donné. C'est parce que dans sa tête, ça va être plus épanouissant pour son enfant. Ils n'ont pas immigré ici dans le but d'exposer leur enfant au racisme.
Oui.
Fait que c'est jamais... C'est comme si dans le cœur de ses mamans, dans le cœur de ses papas, ils ne sont jamais prêts, elles ne sont jamais prêtes mm-hmm. pour considérer que, OK, mon enfant est assez tough pour endurer ça maintenant. Tant mieux, ouais. Personne ne devrait être assez tough pour endurer ça. Mais il y a cet aspect-là qui est souligné par les parents. L'autre aspect qui est souligné, c'est le parent va dire, parce que moi, le parent, il va dire, par exemple, moi, je suis arrivée ici adulte, je savais qui j'étais, et donc, quand on m'attaque comme ça sur qui je suis, ça, oui, ça me dérange, mais je sais déjà qui je suis, fait que ça va pas me rentrer sous la peau de la même manière que si je recevais ce genre d'attaque dans une période où je suis en train de me construire comme personne. Ou bien certains parents vont me dire, mais moi, si on me dit retourne chez moi, je sais où aller. À la limite.
C'est ça. Ouais. On a les racines qui nous ramènent.
C'est ça. Pour mon enfant qui est ici et qui à la limite, n'a jamais encore eu l'occasion d'aller en Haïti, ou en tout cas, juste peut-être pour des vacances. C'est comme chez lui, ça serait. Donc, c'est ça des aspects que j'ai relevé, et plusieurs des parents, leur réaction à ça, c'était de tout faire pour donner à leurs enfants un sens positif de leur appartenance à Haïti. C'est ça les personnes que j'ai vues, c'était des personnes d'origine haïtienne. Donc c'est ça. Est-ce que je réponds à la question?
Oui, absolument, oui. Oui, j'ai vraiment aimé justement la différence entre les deux.
Oui. C'est... Puis en parlant de ça, j'ai envie aussi de souligner comment moi-même comme chercheur, je me retrouve à parler, mais comme chercheur, plus comme psychologue aujourd'hui, je suis pas... Que moi-même comme psychologue, je me retrouve à parler de racisme, c'est intéressant aussi dans la mesure où, quand j'ai commencé mes recherches, c'est comme si cette réalité-là, cette donnée-là, s'est imposée à moi au fur et à mesure, comme tout le long de ma recherche. Au début, j'avais des questionnements sur l'identité, j'avais des questionnements, les questionnements à l'origine de mon travail de recherche qui a amené à cette thèse, c'était des questionnements sur l'identité, des questionnements sur la socialisation, sur les relations parents-enfants. Et c'est ça, déjà au tout début de ma recherche, quand je parlais autour de moi du fait que je faisais de la recherche auprès des familles haïtiennes et que je m'intéressais aux adolescents haïtiens, on dirait que dans les milieux de recherche où j'évoluais, les gens entendaient, même si je disais « je m'intéresse aux adolescents haïtiens », j'ai l'impression que les gens entendaient « tu t'intéresses à la délinquance ».
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
J'avais des propos, dans ce cas, tel article pourrait t'intéresser. Puis c'était des articles sur la délinquance, sur les gangs.
Alors que rien à voir.
Ça parle de qu'est-ce que ça peut évoquer. Ça parle d'un aspect de la perception que plusieurs personnes ont de ces groupes. Et donc, là, j'ai commencé à sentir il y a un problème. Puis un petit peu plus loin, quand j'ai mis les pieds dans le terrain à ce moment-là, j'ai réalisé dans le discours des personnes que j'interviewais, dans le discours des personnes qui me donnaient des entrevues dans le cadre de cette recherche, comment ce regard-là avait du poids sur leur réalité. Fait que ça s'est imposé à moi.
Puis en fait pardon,
c'est quand même super important pour moi de continuer à dire que je suis pas une spécialiste du racisme.
Oui, absolument. Puis justement, je vois le temps qui file, donc je vous donnerai un peu la question de la fin. Par quel moyen est-ce qu'une personne ayant vécu ce type de discrimination-là, du profilage racial, du racisme, comment est-ce que ce type de personne peut prendre soin de sa santé mentale? Puis là, bien sûr, on ne demande pas des conseils nécessairement, mais plutôt comment approcher un bien-être mental.
Comment approcher un bien-être mental? Je mange tout le temps sur des œufs quand on me pose cette question-là, parce que j'ai peur de dire des choses qui peuvent... Comment je pourrais dire ça? On a parlé au début de la perspective dans laquelle je me trouve, de la psychologie communautaire, où on se questionne vraiment sur le fit entre l'individu et son environnement, où on regarde l'individu dans son environnement en questionnant aussi ce que l'environnement offre. Et j'ai peur, quand je réponds à ces questions-là, de ne pas nourrir des personnes qui diraient des choses du genre « Oui, mais t'as juste... » On parlait des tofs tout à l'heure. J'ai peur que les réponses ne soient pas utilisées pour justifier que le problème serait dans l'individu qui subit cette discrimination-là, qui ne saurait pas comment y répondre. Fait que je veux bien mettre ça au clair, que je suis pas du tout dans cette perspective-là. Mais je pense que si on peut, quand on a été exposé à des situations comme ça, c'est important de ne pas... Ça peut être important de ne pas rester seul. Puis quand je dis ne pas rester seul, c'est comme nos besoins de socialiser varient d'une personne à l'autre. Donc quand je dis ne pas rester seul, c'est à la fois symboliquement et concrètement. Donc pour certaines personnes, ça peut être de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Pour d'autres, ça peut être de... je ne sais pas, penser à d'autres personnes qui ont vécu la même chose et s'inspirer de leur... Il y a quelque chose d'extrêmement lourd à être prise comme individu, à vivre dans son corps comme individu, d'attaques plus grand que nous, d'attaques systémiques. Donc, il est important de se rappeler que si c'est parce que j'appartiens à tel groupe que je vis ça, ben, il y a aussi des ressources dans mon groupe que je peux mobiliser. Qu'est-ce que c'est? Puis, ça peut être une manière. Pour certaines personnes, l'engagement social, l'action communautaire peut être quelque chose. Pour certaines personnes, si c'est des actions... Si l'incident auquel la personne a été exposée, c'est des choses qui... On a parlé au début du gros problème de racisme qui peut prendre des formes un petit peu plus subtiles. Fait que ce que je vais proposer là ne convient pas peut-être pour des formes plus subtiles, mais pour des formes plus évidentes, plus concrètes, le fait de rentrer dans une démarche légale peut aider au processus de guérison, au processus de se faire du bien à travers ça. Mais c'est important de respecter son niveau d'énergie à travers tout ça. Si on ne se sent pas l'énergie de rentrer dans un procès parce qu'on a peur de ne pas être cru, c'est important aussi de se respecter là-dedans, mais je veux dire, le meilleur pour qu'on n'ait plus à avoir des problèmes de santé mentale en lien avec le racisme, ça serait que le racisme arrête. Ça serait comme...
Absolument.
Parce que tout ce qu'on dit là, c'est des mesures pansements en attendant.
Ouais,
c'est important.
Ouais, absolument.
À perdre de vue les aspects plus systémiques et la nécessité d'orienter nos luttes vers ça.
Absolument.
Et non, peut-être je dois ajouter l'importance de reconnaître que dans les communautés exposées à ces formes d'oppression, dans les communautés exposées à ces formes d'oppression, les stratégies de résistance ont toujours existé, les manières de se construire, de se réaliser, de construire la joie, malgré tout, à côté de tout ça, a toujours existé. Et c'est important de continuer à reconnaître ça et de se définir en dehors des discriminations. Mm-hmm. Qu'on subit ou exposé.
Mm-hmm.
Et que voilà.
Absolument. Bah, écoutez, docteur Alex, je tiens à vous remercier pour vos beaux mots et pour vos explications. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Black Rose Books invites you to our book launch event.
Confronting Canada's Past and Europe's Forgotten Revolutions.
Happening on Sunday, May 22nd, featuring the authors and editors of
Stand on Guard for Whom?
The Fire That Time.
Insatiable Hunger.
The Forgotten Revolution.
And Black Ukraine Yesterday and Today.
Join us on live stream or in person at 2 p.m.
at the Cité des Hospitalières, 251 Pine West. Corner Park.
Free tickets are available at blackroselaunch.eventbrite.ca or visit blackrosebooks.com for more information.
This event is co-presented with the Cité des Hospitaliers en Transition and CKUT-FM.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
It's finally time to bring back smiles, all of them. Shy smiles, carefree smiles, ear-to-ear pearly white flashers, polite smiles, nervous smiles, knowing smiles, and kind smiles. Wearing a mask is no longer mandatory in Quebec, except on public transit, in healthcare facilities, and in the days following your isolation period if you had COVID-19. Feel free to keep wearing one if you feel the need, and do it with a smile. A message from the Gouvernement du Québec.
By stats, prison is a gold mine camp with no buybacks. Nigga, it's a wizard in the system holding all my blacks. It started in 1640, shackles around my ankles. Melanin meant that I can't go to schools or read, cause who's gonna serve my master? Also, the pastor described all my people as the sheep who exist to keep the land. We feed the economy, creep all the crops, but then feed on it modestly, consciously knowing you're lesser than. And lighter skin means that you're better now. So you in the house taking whips and probably dick, cause well, you a fetish now. Meanwhile, I'm grateful for all that I'm given. I'm picking this cotton in rhythm. I pray for a lot of the living. Escaping is probably a sin, and if God ever finds out that I want my freedom, well damn, then God's gonna call in the wrath. Two horses with opposite maps. Those nooses, they up in the trees and I'm hanging, but I'll never fall like my pants. Then came the 13th Amendment, written in 1865. It says, slavery is over. Acceptance, pay for doing crime.
and then the things that they made illegal are things you associate with people who now education isn't equal, and they getting paid enough to eat, so we stealing and jugging and shit. We need to be fully equipped. The system, the new slave master, brought in to stop us and bullying shit. Cause before we was stealing and jugging, the laws we was breaking was loitering. We go to the bend and we can't pay to find out the jail is who your employer is. This voyage is super intentional. You used to be students in medical. The Moors and indigenous blacks were the smartest and honestly truest professionals, literally teaching you about chemicals. My history isn't viewed on a pedestal. Try to tell me only few of my ancestors had anything to offer. If we wasn't strong, you would never bother. If we wasn't awesome, you never put all of your resources in just to get to conquer. If we ain't a problem, then why would you want all the youngins who black not to have a father? Cause slavery showed black youth for mad years that whiteness is right. Your ma getting fucked, your dad getting whipped, but white is the light. And sometimes master blesses you for being a good slave and kills you off if you a bad one. So black mothers tell their daughters fuck the master, and they tell their sons they can't run. Mama raised the girls independent, and she raised the boys out of fear. These days black women representing the struggle that these black boys trying to clear. Man, we have so much work to do.
Them say me brilliant,
but me
don't try bring down my esteem. My man is no minion.
What?
They want take me dream, they want take me scheme. Can't take my brilliance. Real up in a Sicily yard, why man never raised by a militant. Bad man like me just a answer to myself. Man bond that boy, my command. Them act like say them not rape me, but truly inspired by I man the real Dan. Them act like say them not fair with Bereri. I man is not no replicant. Hey boy over there, don't chat to me, chat to mine. Man. Karate chop them pussy, they run back. Kaya yard, go and live life elegant.
Yeah man, lock them boy out me dimension. Yeah man, lock them boy out of me section.
When I step to me, talk to me kill it in face.
When I pressure me, them man go put you to waste. Hey, hey, mind your business. Mind your business.
That's right.
Mind your business. Boy, me tell her. Silly boy, see me killing them there.
Man.
Just know when me pass by, I man tell them fig way.
Yes,
yo, he no fly, jack right on the head on a rainy day.
River come down,
river come down, river come down for me off them place. Just give them a rewind, rewind for them cross by me green line. Me know this, not gonna make no sense, but me just take them girl 3 times. Him and him and him, that's peace sign. The ref just gave me a tech green card, that girl, so I guess it's D time. Yo, bunda boy, there, I guess it's me and she time with me.
In and become that God body, and we sick. In and become that God body, and we sick.
Yeah, man, lock them boy out of me section. Yeah, man, lock them boy out of me dimension.
When I step to me, talk to me, kill it in face.
When I pressure me, them man go put you to waste. Hey, hey. Mind your business. Mind your business.
That's right.
Mind your business. Boy, me tell her.
Well, this one called the volcano eruption. Well, you see, now 84 crowd of people. You don't want to become new. Run, it name. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth, them just are dressed up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resembles dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn down to left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is your number? I still don't answer. What is your number, boy? I really don't answer. In crank up in chopper. Me mama, then me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW, what you want? 64, 46, BMW, Lord. He said, give it to me one time, give it to me two times, give it to me three times, Lord, it name. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not it don't yam cattle, not it don't yam dirt. It come from the planet of Earth. It come from the planet of Earth. Say granny in the kitchen, I cook rice and chicken. The dread out a door, I cook a eat a soup. No trouble granny, granny never trouble you. Not it cook up in my tals too. It aim, nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth, them a dress up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resemble dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is the number? I didn't answer. What is the number? I still don't answer. What is the number, boy? I really don't answer. It can't call me chopper. Me mama, then me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW. What you want? 64, 46, that a BMW, Lord. He said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it aim. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not the don't yam cattle, not the don't yam dirt. He don't yam cattle, not the don't yam dirt. He come from the planet of Earth. Cause not he come from the planet of Earth. Cause things me used to do, me not go do it no more. So do me not go to eat no more. The ear it changed to 84. But here yellow man come fi tell you the score. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. We'll be right back.
drink be joy. A true Rasta man do not ya. Thank you.
I don't like your energy. As if I form it. Me no comic. Bad vibes, I don't want it. I don't want it. Stay away from me.
Away from me.
Energy.
Like energy,
as if I form it. Me no comic. Bad vibes, I don't want it. I don't want it. Stay away from me.
Away from me. Away from me.
Away from me. Sorry. Beauty. No toxic. You don't need to talk. Do it. Just do it. I want more, she want less of this nonsense. Asking me to act right, asking me to act right, yeah. Do it, just do it. Angela, come señorita. Decidez-vous, eh, voulez-vous, eh, collez-vous, eh, poussez-vous, yeah.